Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances.
Oui, aussi.
Vous avez travaillé, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est la meilleure façon de passer ses vacances, non? Non, pas tout à fait, non, c'est vrai. Il faut prendre le temps de se reposer de temps en temps, profiter un petit peu. Bon, là, le printemps arrive, donc on va avoir pas mal d'occasions. Avant d'oublier, jeudi prochain, nous avons notre journée interdisciplinaire, qui commence à midi. Donc, dans cette salle, avec un déjeuner. Vous êtes les bienvenus, mais ça veut dire qu'on ne fera pas notre traversée de la Bible jeudi prochain. Mais vous venez, vous amenez votre sandwich, votre petite salade, votre Tupperware. Et puis, comme ça, on peut passer un moment agréable ensemble. À 1h15, on descend en salle tolère. On va avoir une surprise. Et puis, à 1h30, les ateliers commencent. Et puis ensuite, il y aura un petit apéritif à 6h. À 7h, une pièce de théâtre. 7h30, Joseph et Asénette, la pièce de théâtre. C'est succulent. Et 7h30, un dîner. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Pour le dîner, le soir, il faut s'inscrire, pour qu'on sache pour combien on fait à manger, figurez-vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a sur Internet, il y a une liste, même ici avec votre stylo sur le tableau d'affichage, vous pouvez marquer votre nom. Si vous venez accompagné, marquez le nom de la personne qui vous accompagne. L'idée, c'est qu'on va faire les courses lundi, mardi, quelque chose comme ça. Donc on veut savoir si on fait à manger pour 40 ou pour 80. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, oui. Ah, bien sûr, non, en fait, bien sûr, les ateliers, il y a ceux qui se sont inscrits pour animer les ateliers, donc il y aura 4 ateliers. Chaque atelier est animé par une équipe d'enseignants et d'étudiants. En général, c'est des équipes de 5-6, quelque chose comme ça, souvent, hein. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Donc, des enseignants, des étudiants, qui ont une heure chacun. Donc, ils vont nous présenter des exposés, des débats, ils vont utiliser le vidéoprojecteur, il y aura des documents, enfin voilà. Donc ce sont eux qui animent, nous on profite, on est juste là pour profiter. Le thème des journées interdisciplinaires cette année, c'est Strasbourg, lieu théologique, au singulier ou au pluriel, avec le jeu de mots évidemment. Et donc on a déjà eu une première journée en octobre, on a une deuxième journée jeudi prochain, et n'hésitez pas à venir. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que du coup, jeudi prochain, on n'aura pas cours ici. Alors, nous en sommes au petit prophète. Petit par la taille, mais non en importance. Ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est qu'en fait, les 12 petits prophètes constituent finalement un livre. Nous, on les voit comme 12 petits livres quand vous regardez la table des matières de vos Bibles. En réalité, à l'époque où ils ont été rédigés, c'est-à-dire dans les dernières phases rédactionnelles. Je vous expliquais la dernière fois qu'on voit des liens. L'ordre n'est pas anodin, l'ordre dans lequel on les met n'est pas anodin, et même certains versets au début d'un petit prophète reprennent la thématique, ou même textuellement, un des versets à la fin du précédent. Donc ça veut dire qu'on les conçoit comme formant un corpus ensemble, on les rassemble. On n'imagine plus, au bout d'un moment, on n'imagine plus qu'ils puissent circuler indépendamment les uns des autres, on les imagine comme formant un tout unifié. C'est très intéressant parce que c'est déjà une sorte de canon, si vous voulez. C'est déjà l'idée que, ensemble, ces livres-là fonctionnent, interagissent et véhiculent un message. Cette notion de canon, elle va se généraliser à l'ensemble de la Bible. Aujourd'hui, on dit la Bible au singulier, alors que c'est un mot pluriel à l'origine. Hein, ce sont les livres, la bibliothèque, en fait. Mais pour beaucoup de gens aujourd'hui, quand on prend la Bible entre les mains, on pense qu'on a un livre. Et de fait, c'est vendu sous la forme d'un seul livre. Il n'y a qu'un seul numéro ISBN. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a bien cette idée que c'est un livre. À tel point que ça nous amène parfois à faire des contresens sur certains versets. J'ai eu une question, par exemple, sur Internet hier, de quelqu'un qui me dit, à propos de la question de la composition du canon, des apocryphes, etc., mais que dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit que quiconque ajoutera ou retranchera quoi que ce soit, j'ai plus le verset en tête, mais on lui promet tous les malheurs du monde. J'imagine qu'on va l'envoyer griller en enfer ou un truc comme ça. Je sais pas trop quel sort on pourrait lui réserver. Voilà, c'est ça, tout à la fin, Apocalypse 22, verset 18, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voilà. Et les gens disent, ah, ce livre, c'est la Bible. Bien sûr que non. Le livre dont il est question, c'est évidemment le livre de l'Apocalypse. L'auteur de l'Apocalypse parle de son livre. D'ailleurs, il parle bien de 7 prophéties, de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, on est bien dans l'Apocalypse. Donc, j'ai pas encore répondu à cette personne qui m'a écrit sur Internet, mais ma réponse, ça va être de lui faire comprendre que ce verset, évidemment, est rédigé par l'auteur du livre de l'Apocalypse de Jean, qui parle de ce livre et qui dit, ça y est, j'ai fini ce livre-là. Et l'idée de la conception de la Bible comme étant un seul livre, elle arrive bien sûr plus tard. Pour ce qui est des 12 petits prophètes, en réalité, ce processus de composition d'un corpus, il est manifestement déjà à l'œuvre à l'époque, disons, au tournant de notre ère. Vraisemblablement, peut-être même déjà dès le deuxième siècle avant notre ère, deuxième ou premier siècle avant notre ère, déjà, on les rassemble, on les rédige ensemble, on choisit le nombre, hein, 12, c'est pas anodin. J'avais dit la dernière fois qu'effectivement, on aurait pu en mettre 10, 11, 15. Non, 12, évidemment, le chiffre est bien choisi. Et les manuscrits de la Mer Morte nous montrent bien qu'ils ne circulent pas indépendamment les uns des autres, qu'ils sont rédigés sur un même rouleau. Et d'ailleurs, tous ensemble, le gabarit du livre des 12 petits prophètes, c'est à peu près le gabarit d'un des grands prophètes, comme Isaïe, comme etc. Donc, on a 3 grands prophètes, en fait, on en a 4. Et le quatrième, c'est le rouleau des 12 petits prophètes. J'ajoute que, du coup, des gens que nous considérons comme des prophètes, comme le livre de Daniel, par exemple, sur lequel on viendra, ne fait pas partie du corpus des prophètes dans le canon hébreu. Précisément parce qu'on a 12 petits prophètes et on n'en veut pas 13. On aurait pu mettre Daniel, non, ça colle pas. Donc Daniel, en fait, il est relégué, il est à un autre moment, et il fait partie des hagiographes, la troisième catégorie du canon hébraïque, où on met catégorie un peu fourre-tout, on met tous les autres livres qu'on n'a pas pu mettre précédemment. Alors, dernière fois, on a vu une première partie hein, des 12 petits prophètes. On continue aujourd'hui, on va finir les autres. Et on attaque avec le livre de Michée. Alors, le livre de Michée reprend les thèmes standards du corpus prophétique, c'est-à-dire, on annonce d'une part le jugement, la condamnation, le châtiment pour les impies, et puis d'autre part, on annonce le salut, la restauration, la délivrance. Donc ce sont à chaque fois les deux grandes thématiques, et ce sont celles qu'on va retrouver à ce niveau-là. Les seules différences vont porter sur le contexte, dans quel contexte on écrit, à qui on s'adresse. Dans le cas de Michée, on nous dit, chapitre 1, verset 1, que le prophète Michée a vécu au jour de Yotam, Akaz, Ézéchias, roi de Juda, ce qu'il a vu au sujet de Samarie et de Jérusalem. Donc on plante le décor. On est content parce que ce n'est pas toujours le cas. On a vu la semaine passée qu'on ne nous dit pas toujours à quelle époque les prophètes ont vécu, etc., etc. Là, on nous dit, c'est clairement, on a le nom des rois. On est donc au 8e siècle, si vous avez en tête la chronologie. On a fait hein, les livres de Samuel roi, etc. Et on est donc au 8e siècle avant notre ère. Et on est à une période très importante puisque ce sont les dernières années du royaume du Nord et la destruction du royaume du Nord. Et ça, c'est un traumatisme. 722. Les Assyriens arrivent, détruisent le royaume du Nord. La capitale, c'est Samarie. C'est pour ça qu'on dit Samarie et Jérusalem, qui sont respectivement les capitales des deux royaumes. Donc, même si ce sont deux royaumes indépendants, ils sont côte à côte, ils sont voisins, et les gens du royaume du Sud ne sont pas... voient ce qui se passe. Et eux-mêmes subissent les attaques. Ézéchias est assiégé lui aussi hein, par Sennachérib en 701 avant notre ère, si ma mémoire est bonne. Enfin, j'y étais pas, hein, mais je veux dire, quand je dis ma mémoire, c'est pas... Mais... Donc, je veux dire, c'est une période qui est une période de traumatisme pour le peuple d'Israël et pour le peuple de Juda. Et donc, il s'agit bien sûr de comprendre ce qui se passe. Comment se fait-il que ces traumatismes, que ces malheurs nous arrivent dessus? Comment rendre compte de ça? Et évidemment, l'explication, c'est de dire, eh bien voilà, Dieu a permis que nos ennemis aient la victoire parce que nous avons été infidèles. Et donc, on va condamner l'infidélité du peuple. Et on va évidemment avertir le peuple de Juda en disant, attention, si vous faites pareil, si vous continuez, il va vous arriver la même chose qu'à vos voisins du Nord. Alors, la trame... La structure du livre de Michée, on a 3 parties. Les chapitres 1 à 3 sont des oracles de jugement. Donc on commence par condamner, avertir, mettre en évidence l'impiété du peuple. Les chapitres 4 et 5 s'intéressent au salut, pour le coup. Donc on a parlé du jugement, on passe au salut, avec une insistance sur Jérusalem, c'est ce qu'on va voir. Et puis enfin, les chapitres 6 et 7 reprennent des éléments à la fois de jugement et de salut, puisque il est question d'un litige à nouveau. On va y revenir. Et de l'issue de ce litige. Voilà. Alors regardons un peu plus en détail. Chapitre 1 à 3, oracle de jugement. On retrouve des genres littéraires communs, par exemple celui de la théophanie, de la représentation du divin, au chapitre 1er, verset 3, « Le Seigneur sort de son lieu, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre, sous lui les montagnes fondent, les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui dévale une pente. Tout cela à cause de la transgression de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. » Jacob, c'est bien sûr Israël, c'est le même personnage. Patriarche, Jacob a changé de nom, s'appelle Israël, donc structure parallèle. Transgression de Jacob, péché Israël, en prenant des synonymes. La représentation de Dieu qui sort, qui est sur les hauteurs, qui marche sur les montagnes, correspond à l'iconographie qu'on a au Proche-Orient ancien d'un Dieu qui chevauche les montagnes, qui chevauche les nuées, etc. etc. C'est du vocabulaire qu'on va retrouver régulièrement dans l'ensemble des prophètes, y compris dans des prophètes qui ne sont pas dans le corpus de la Bible hébraïque. Vous avez à peu près les mêmes mots, par exemple, au début du livre d'Enoch. Et on nous dit le Seigneur sort pour juger les myriades, etc. C'est un verset, d'ailleurs, qui est cité dans Jude, l'épître de Jude, vous voyez, verset 14-15. Le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement contre tous et de confondre pour toutes leurs œuvres d'impiété, etc. etc. En fait, Jude ne cite qu'un seul verset du livre d'Enoch, le verset 9. Mais si vous lisez tout le passage, en fait, vous avez aussi Dieu qui arrive, qui sort de chez lui, qui sort de sa demeure pour venir exercer le jugement. Et on retrouve le même vocabulaire avec la cire qui fond devant le feu, etc. etc. Donc, au début, il est question uniquement de Jacob et d'Israël. Après ça, on enchaîne toujours au verset 5. Quelle est la transgression de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Et donc, on a bien Samarie et Jérusalem sur le même plan. On condamne les deux de la même manière. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on reproche au peuple? Eh bien, précisément, verset 7, « Toutes ces statues seront mises en pièces, tous ces gains seront jetés au feu, je démolirai toutes ces idoles. Recueillies avec le gain de la prostitution, elles redeviendront un gain de prostitution. » Donc, on retrouve le vocabulaire qu'on a déjà vu précédemment, « condamnation de l'idolâtrie, on fait des idoles, et on utilise le vocabulaire de la prostitution. » Alors, qui est certainement ici imagé comme d'habitude, hein. On a vu que souvent on dit le peuple d'Israël est une épouse infidèle et même une prostituée, ou pire encore, rappelez-vous, on avait vu, c'était Ézéchiel qui disait, en fait, c'est pire même qu'une prostituée, puisque tu te fais même pas payer pour les services que tu donnes, au contraire, c'est toi qui payes tes amants, donc c'est encore pire qu'une prostituée. Cela dit, donc, quand vous avez ce vocabulaire-là, en général, il s'agit bien sûr d'une métaphore. D'un autre côté, on sait que la prostitution faisait partie des rituels dans un certain nombre de religions, des pratiques. On avait la prostitution sacrée, ce qu'on appelle la prostitution sacrée, ou qui était en fait des rites de fertilité essentiellement. On veut la fertilité, pour les femmes, pour les humains, mais également la fertilité pour le bétail, la fertilité pour les champs, etc. etc. Donc il y avait évidemment des rites. Mais là, je pense que c'est plutôt le vocabulaire imagé dont il est question ici. Au chapitre 2, la condamnation s'adresse là encore plus particulièrement à ceux qui sont à la tête du peuple, les responsables. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est souvent dans les prophètes, on reproche à l'ensemble du peuple, mais plus précisément à ceux qui les dirigent. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 2. On retrouve également le vocabulaire de l'alcool. Regardez verset 11. « Qu'un homme au gré du vent se mette à débiter des mensonges, je vais vaticiner pour toi sur le vin et l'alcool. » Donc on a là encore le vocabulaire de l'alcool, et qui est là encore une métaphore, je pense. Les gens s'égarent de la même manière qu'on s'égare quand on boit trop. Eh bien, ils s'égarent, ils déraisonnent. D'un autre côté, là encore, il y a des cérémonies, des rituels qui impliquent de l'alcool, et y compris l'ivresse. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de religions au Proche-Orient ancien. C'est vrai même dans le judaïsme. À l'heure actuelle, il y avait la fête de Pourim, là, il y a quelques semaines, là, pendant les vacances. Eh bien, dans la fête de Pourim, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la fête qui est célébrée à l'occasion de la victoire à l'époque d'Esther. On est à l'époque perse, on y viendra, on fera le livre d'Esther. Mais à l'époque perse, c'est encore un livre qui raconte un grand danger que court le peuple, les Judéens, qui sont répartis dans tout l'Empire perse, et Dieu qui vient à leur secours, et ils ont la victoire, et du coup, ils célèbrent, et c'est la fête. Alors la fête de Pourim, il y a plein de traditions qui se sont ajoutées au fil des siècles, qui sont très amusantes. Aujourd'hui, on se déguise, les enfants sont déguisés, les petites filles sont déguisées en princesses, en fait, c'est princesse Esther, les petits garçons sont déguisés en Superman ou Spiderman, en fait, c'est parce qu'ils ont le rôle de Mardoché, et puis il y a ceux qui peuvent se déguiser en zombies, ou en squelette, ou en vampire, et eux, c'est Aman, le méchant. Donc il suffit d'aller acheter les mêmes costumes dans le commerce que pour une autre fête comme Mardi Gras ou Halloween, mais sauf que là c'est pour Pourim. Et puis on mange des petits, enfin bref, je vais pas faire tout le détail, mais un des éléments intéressants, c'est que dans la littérature rabbinique, on dit que il faut boire. Et donc c'est pas forcément mis en pratique dans tous les milieux, mais dans certains milieux orthodoxes, ultra-orthodoxes notamment, chez les rabbins, il faut boire jusqu'à être mais complètement ivre, c'est-à-dire faire un véritable blackout. Donc c'est pas le texte dit bien, il faut boire jusqu'au blackout. Donc c'est assez drôle de voir ça, et c'est une fois par an. Donc vous voyez, les rituels qui impliquent le fait de boire de l'alcool, ça existe encore aujourd'hui dans le judaïsme. Au chapitre 3, voyez bien, écoutez, je vous prie, chef de Jacob, magistrat de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de savoir ce qu'est l'équité ? Donc on leur reproche explicitement leur responsabilité. Et puis un peu plus loin, verset 5, donc ça ce sont pour les responsables administratifs, politiques, verset 5, « Voici ce que dit le Seigneur contre les prophètes qui égarent mon peuple. » Là, cette fois-ci, on s'intéresse au pouvoir religieux, les prophètes, avec là encore le problème des faux prophètes. On retrouve au verset 11, toujours du chapitre 3, ces chefs juge pour des pots de vin, premièrement, donc responsable politique. Ses prêtres enseignent pour un salaire, pouvoir sacerdotal. Troisièmement, ses prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. Donc, on a encore les responsables politiques, sacerdotaux, et puis les prophètes qui sont toujours un peu en marge, qui sont un peu au milieu. Hein. Les prophètes, ils vont à la fois, ils ont pouvoir religieux, mais en même temps, ils donnent des conseils au roi, etc. Donc, on retrouve cette triade qui revient régulièrement, que je vous ai signalé à plusieurs reprises. Chapitres 4 et 5, maintenant, après avoir condamné le peuple pour l'idolâtrie, pour les pots de vin, pour etc., etc., le manque de droiture, d'équité, de justice, eh bien maintenant, on bascule, chapitre 5, le discours de restauration, de salut. Alors, que peut-on remarquer chez le prophète Michée ? Il y a un élément très important dans ces deux chapitres, chapitres 4 et 5, outre le fait qu'on annonce la délivrance, etc., eh bien, on insiste sur la centralité de Jérusalem. Et ça, c'est intéressant, puisque, en un sens, on pourrait dire, oui, ben, on s'y attend, puisque le royaume de Samarie est détruit, donc c'est bien sûr Jérusalem qui va s'imposer. Mais plus que cela, Jérusalem devient véritablement le centre du monde. On avait déjà vu... cette question de l'universalité du salut avait déjà été évoquée chez d'autres prophètes, déjà chez Isaïe, enfin chez les grands prophètes, même encore, la dernière fois on parlait du prophète Jonas, et avec cette réflexion sur Ninive, est-ce que si j'avertis Ninive de son iniquité qu'elle se repent, est-ce que vraiment Dieu va sauver ces gens qui ne sont pas des Judéens ? Donc autrement dit, est-ce que Yahvé est le Dieu des Ninivites ? Est-ce que c'est le Dieu des Mésopotamiens, des Assyriens, des Babyloniens, des Égyptiens, ou bien est-ce que c'est uniquement le Dieu des Judéens ? Et là, ou des Israélites ? Eh bien là, il y avait donc cette réflexion sur l'universalité. Eh bien là, de nouveau, on a une telle réflexion. On nous dit, chapitre 4, « Les peuples y afflueront », verset 1, verset 2, « Une multitude de nations s'y rendra. Ils diront, venez, Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Donc, il n'est pas question juste du peuple de Juda, il n'est pas question uniquement des Israélites qui se réfugient en Juda après la destruction du royaume de Samarie. Vous savez qu'une fois que le royaume de Samarie est détruit, toute une partie de la population israélite descend vers le sud. C'est pas très loin, hein, il faut faire 50 kilomètres. Hein, je veux dire, ça se, 100 ou 150 kilomètres maximum, donc ça se fait bien. Hein. La ville de Jérusalem, la taille de la ville de Jérusalem est multipliée par, je sais pas, 4 ou 5, quelque chose comme ça. J'ai pas fait les calculs, mais avant la destruction au début du 8e siècle, il y a juste la pointe sud, on appelle la cité de David. C'est il y a l'Ophel et puis le Silouane. Enfin, je sais pas si vous voyez, si vous êtes allé à Jérusalem, mais ça fait quoi? Ça fait une centaine de mètres de longueur sur 30 mètres de large, quelque chose comme ça. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vraiment pas grand, quoi. Et d'un seul coup, il y a la vallée du Tyropéon, juste, donc de part et d'autre, il y a la vallée du Cédron et la vallée du Tyropéon de part et d'autre. Et à l'époque d'Ézéchias, donc fin du 8e siècle, c'est là qu'on bâtit toute la colline occidentale. Alors, si je retourne, ça fait de l'autre côté pour vous. Donc, toute la colline occidentale, qui correspond aujourd'hui à la vieille ville, une bonne partie de la vieille ville, et puis la dormition de Marie, tout ça, donc toute cette zone-là de Jérusalem, c'est là qu'on construit. Donc on multiplie par je ne sais pas combien la taille de la ville parce que justement il y a un afflux de population venue du nord en fait. Donc de fait Jérusalem à cette époque, et peut-être que quand ces textes-là sont écrits, peut-être qu'on voit justement la ville de Jérusalem qui commence à gonfler en taille, à doubler, tripler, quadrupler, quintupler de taille à cette époque-là. Mais en même temps, la population qui vient, c'est une population israélite. Or là, ce que le prophète envisage, c'est pas simplement de dire voilà, Juda et Israël vont se rassembler, les deux royaumes vont se réunir, les 12 tribus vont être de nouveau rassemblées en un seul peuple. Non, 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 c'est pas ça, c'est une multitude de nations. Et on nous dit, car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Et donc il y a bien une centralité de Jérusalem. Pas simplement pour le peuple de Juda ou même d'Israël, mais pour l'ensemble des nations. Alors évidemment, c'est un avenir idyllique. On nous dit au la fin du verset 3, « Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. » Formidable. « Chacun d'eux habitera sous sa vigne et sous son figuier, il n'y aura personne pour les troubler. » Donc ça, c'est l'avenir idéal. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces chapitres? On retrouve des thématiques que nous avons déjà évoquées. Verset 7, par exemple, « De ceux qui boitent, je ferai un reste. » Donc, la théologie du reste, c'est-à-dire que Dieu ne détruit jamais le peuple, même si le peuple est châtié, même si le peuple est exilé, même si le peuple est dispersé. En réalité, Dieu préserve toujours un reste. « Le Seigneur sera roi sur eux, au mont Sion. » Et voyez, attention, il sera roi sur eux, au mont Sion, dès maintenant et pour toujours. Donc, on insiste sur la royauté, mais on précise également que c'est le Seigneur qui sera roi. Et là, il y a aussi une réflexion sur la royauté, et en particulier sur les rois qui ne sont pas forcément de bons rois. Et on veut que ce soit le Seigneur qui soit lui-même roi. Alors, à propos de cette royauté à Sion, à Jérusalem, on nous dit, chapitre 5, verset 1er, « Quant à toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Ah, alors ça intéresse évidemment les chrétiens. Ah, de Bethléem sortira. Alors, Bethléem, c'est Jérusalem en fait. Hein. Bethléem, on voit Bethléem quand on est au sommet du Mont des Oliviers, par exemple, s'il fait beau, qu'il n'y a pas trop de nuages, tout ça, on voit Bethléem. Donc à vol d'oiseau, c'est 5-6 kilomètres. Hein. Donc ça, c'est... Bon, à pied, c'est vallonné, donc il faut quand même... Ça se fait pas en une heure, évidemment, mais ça se fait, je sais pas, en 2-3 heures de... Moi, je l'ai pas fait, mais ça se fait à pied, je pense, pour 2-3 heures. Ce verset, à la fois, bien sûr, évoque la centralité de Jérusalem, on est à la périphérie de Jérusalem, et en même temps, il est fait allusion, bien sûr, au roi, c'est-à-dire au Messie. Donc il y a une idéologie messianique, on attend le Messie, et le Messie, on nous dit qu'il vient de Bethléem. Donc c'est pas pour rien si, dans le récit des évangiles dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus est né à Bethléem. Même si ça peut poser problème, parce que finalement, Jésus, d'un côté, il vient de Galilée, il vient de Nazareth, et on dit, mais comment fait-il pour naître à Bethléem? En même temps, le Messie doit naître à Bethléem, en même temps, Jésus vient de Galilée, comment on fait? Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Il se trouve que, précisément, il y a le recensement, et que donc, sa famille doit aller se faire recenser sur le lieu d'origine, qui est Bethléem. Et donc, c'est comme ça que Jésus peut naître à Bethléem, tout en étant galiléen. On revient sur la question du reste, verset 6, chapitre 5, verset 6, le reste de Jacob, verset 7, le reste de Jacob. Donc, on reconnaît d'une part que le peuple est peut-être dispersé, donc il y a la diaspora, hein, diaspora ça veut dire dispersion en grec, donc il peut y avoir effectivement une diaspora, une dispersion du peuple, mais le reste est préservé et reviendra. Et donc on envisage un avenir où tous les problèmes seront réglés. Verset 12, « Je retrancherai de ton sein tes statues, tes pierres levées. Tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. Je déracinerai de ton sein tes poteaux cultuels, c'est-à-dire les achéras. Hein. » En hébreu, le mot achéra désigne une sorte de totem, si vous voulez, qui servait au culte. Voilà, donc c'est l'avenir qui est envisagé dans lequel le peuple sera débarrassé de son idolâtrie. Les chapitres 6 et 7, comme je disais tout à l'heure, reviennent sur cette problématique et se présentent comme une troisième section qui présente, il y a une sorte de, qui sont structurés comme un litige. Vous voyez, verset 2, chapitre 6, verset 2, il est en litige avec Israël. Donc on a un vocabulaire juridique. Il y a une sorte de procès. Et la structure est intéressante puisque, donc, on va avoir plusieurs éléments. Si vous êtes comme moi fan de séries télé qui parlent d'avocats comme je sais pas, The Good Wife ou je sais pas quoi, enfin, vous verrez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on commence par il y a une sorte de plaidoyer, c'est-à-dire que chacun va rappeler les événements. On dit voilà les faits, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi un tel est accusé du meurtre de telle autre personne, etc. Il y a un rappel des faits. Donc là, on retrouve la même chose. Et puis ensuite, eh bien, il y a le jugement. On dit ben voilà la sentence, bleu, comme ça, etc. Et puis à la fin. Évidemment, ici, comme tout doit bien se terminer, il y a le salut. Voilà. Enfin, donc, c'est ce qu'on a à partir de chapitre 7, verset 8. On revient vers le salut. Donc, voilà, on a un rappel de la loi. Voilà ce que vous auriez dû faire, voilà ce que vous n'avez pas fait, et voilà donc la condamnation, mais en même temps, voilà le salut que vous recevrez. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisqu'il n'y a pas... Il n'y a pas forcément grand-chose. Qu'est-ce que je peux vous dire que vous ne savez déjà? Verset 16, chapitre 6, verset 16. On s'en tient aux prescriptions d'Omri à toute la manière d'agir de la maison d'Akab et vous suivez leurs conseils. Alors, Omri et Akab, petit rappel historique, Omri, c'est celui qui a fondé la capitale du Royaume du Nord à Samarie. Donc, c'est lui qui a établi la capitale à Samarie. Et Omri est connu... dans des documents qui ne sont pas en hébreu, hein, dans les annales néo-assyriennes, par exemple, précisément, quand les néo-assyriens attaquent le royaume d'Israël en acadien, ça se dit Bet Omri, c'est-à-dire en hébreu Bet Omri, la maison d'Omri, la maison dynastique, c'est-à-dire la maison royale, la royauté d'Omri. Donc, même un siècle après la mort d'Omri, c'est-à-dire que même un siècle après la mort d'Omri, pour les Assyriens, ce royaume du Nord, c'est le royaume d'Omri, c'est celui qui a été fondé par Omri. Akab est descendant d'Omri. Omri fonde la capitale à Samarie. Il fonde également une dynastie. Il y a quatre rois, en fait, dans la dynastie Omride, dont le roi Akab, c'est celui à qui Élie a eu affaire. Si vous vous rappelez des chapitres concernant le prophète Élie dans le premier livre des rois, quand on a fait ça il y a quelque temps. Donc, ce sont pas des rois spécialement bons, et donc on parle de leur iniquité ici. Alors voilà, je m'arrête là pour le prophète Michée, j'embraye avec le prophète Nahum, il faut quand même qu'on avance. Le prophète Nahum s'intéresse à la ville de Ninive. Alors ça vous rappelle quelque chose, la ville de Ninive? Jonas, oui, c'est bien. Voilà. Donc, on en a déjà parlé à l'occasion du prophète Jonas. Et le problème de Jonas, c'est que Jonas n'avait pas envie d'avertir les Ninivites, parce qu'il ne voulait pas que les Ninivites se repentent, puisque, après tout, c'est bien fait pour eux. Alors, on ne va pas non plus être gentil avec eux. Et donc, Nahum revient sur Ninive, et on retrouve dans le livre de Nahum Alors, c'est pas forcément évident à reconnaître, mais dans le texte hébreu, on retrouve des liens avec le livre de Jonas. Et le livre de Nahum est truffé de jeux de mots, d'allitérations, de constructions, y compris numérologiques et alphabétiques. Par exemple, vous avez des poèmes alphabétiques, c'est-à-dire que chaque phrase ou chaque mot commence par une lettre de l'alphabet. Donc on fait par exemple de l'alphabet, ou parfois vous avez, pas forcément la lettre de l'alphabet, mais parfois vous avez des phrases, vous prenez la première lettre et ça vous donne le tétragramme, ou ça vous donne des choses comme ça, etc. etc. Donc c'est une construction assez élaborée. Je ne suis pas forcément convaincu par tout ce qui a été publié sur le sujet. Je pense notamment au commentaire qui est paru dans la collection Anchor Bible Commentary, comment il s'appelle ? Je l'ai eu comme prof en plus. Je l'ai eu comme prof à Jérusalem. Il est mort là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Anderson, non, je confonds. Bref, j'ai oublié son nom. Enfin voilà, l'auteur du commentaire sur Nahum, il était en train de le rédiger à l'époque. J'étais en doctorat, et donc il faisait un séminaire de recherche sur Nahum à l'occasion de la rédaction de son commentaire. Et lui, il partait vraiment dans des grandes constructions, y compris des mises en page. Il voyait des schémas de bateaux en agençant le texte, d'une certaine manière, en comptant les lettres, etc., etc. Des constructions très sophistiquées qui permettent de retrouver alors le bateau sur lequel Jonas s'enfuit, etc., etc. Alors, c'est-à-dire que d'un côté, on sait que c'était des choses qui pouvaient se faire à l'époque. On a ça sur des textes acadiens, par exemple. Dans les textes acadiens, on joue sur les signes qui sont utilisés pour noter les mots. En acadien, c'est pas comme l'hébreu. En hébreu, vous avez 22 graphèmes et c'est tout. En acadien, vous en avez des centaines. Et vous avez plusieurs façons, puisque ce sont des graphèmes syllabiques. On note des syllabes. Et donc, j'ai plusieurs façons de noter une même syllabe. Et donc, selon les graphèmes que je vais choisir, etc., etc., je n'utilise pas toujours le même nombre de clous. Et certains graphèmes qui dérivent par ailleurs du sumérien, ça peut être des sumérogrammes, etc., peuvent avoir une apparence physique, une ressemblance physique, etc. Donc, il y a les lettres elles-mêmes peuvent revêtir un sens. Outre le fait de ce qu'elles expriment, du mot qu'elles vont servir à noter, de la phrase qu'elles vont servir à exprimer, la forme des lettres elles-mêmes, elle peut être évocatrice. Et donc il est possible, je pense que dans certaines mesures, il y a des choses qui sont assez évidentes dans le livre de Nahum, d'autres choses où je ne suis pas forcément hyper convaincu. En tout cas, c'est un petit livre, 3 chapitres, qui se présente simplement comme un texte qui condamne, disons, les Ninivites pour leur iniquité, etc. etc. Donc on condamne. Là, il n'y a pas de, on n'envisage pas le salut. Il n'y a pas. On est juste content de pouvoir condamner Ninive, qui est représentée ici, du coup, qui apparaît un peu comme presque l'archétype de l'ennemi, l'archétype de l'ennemi du. Ce sont les méchants, les mauvais, et donc ils vont être frappés du jugement divin. Alors, quels sont les reproches qui lui sont faits ? Alors, on trouve évidemment, là encore, les mêmes thématiques. Regardez verset 10. Ils sont des épines enchevêtrées, ivres de leur boisson. Donc, vous avez encore l'allusion à l'alcool. Verset 14, je retrancherai de la maison de tes dieux statues et idoles de métal fondu. Donc, de nouveau, l'idolâtrie. Et donc là, pour le coup, on annonce vraiment la destruction. Et donc, on se réjouit de la destruction. Il y a des images intéressantes. Chapitre 2, verset 9, Ninive est comme un réservoir d'eau qui fuit. Verset 11, carnage, saccage et ravage. Verset 14, je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes jeunes lions. Chapitre 3, verset 1er, quel malheur pour la ville sanguinaire. Verset 4, c'est à cause de toute la prostitution de la prostituée. Pleine de grâce, maîtresse en sortilège et qui vendait des nations par sa prostitution. Donc, là encore, le même vocabulaire auquel nous sommes désormais assez bien habitués. Chapitre 3, verset 11, toi aussi tu seras ivre. Etc., etc. Verset 19, il n'y a pas de soulagement pour ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. sur qui le mal que tu faisais ne passait-il pas constamment ? Donc on dit, voilà, ta blessure est mortelle, autrement dit, on n'annonce pas un espoir de salut, de délivrance, et en même temps, on s'en réjouit. Tout le monde va applaudir la destruction. Et là, on sent que dans ce livre, ce petit livre de Nahum, on insiste sur cet élément de condamnation. On ne parle pas de restauration. On sent que le contexte... Alors, on a très peu d'infos hein, sur à quelle époque, qui... On ne sait pas. Nahum, on ne sait rien sur lui. Mais on sent que c'est une époque... À un moment donné, on a besoin d'affirmer la justice qui s'exerce contre les impies. Je pense qu'un des versets clés du livre de Nahum, on l'a dès le début, au verset 3. On nous dit, certes, le Seigneur est patient, sa force est grande, mais surtout, regardez bien, le Seigneur ne tient jamais le coupable pour innocent. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que, c'est, parce qu'on pourrait dire quand même, Nahum, c'est pas un livre très drôle, bon, c'est un petit livre, mais quand même, en 3 chapitres, est-ce qu'il n'avait pas le temps de dire, bon, le Seigneur est riche en miséricorde, en bonté, il fait grâce, non. Là, dans le contexte du prophète Nahum, le message qu'on avait besoin d'affirmer, c'est qu'on ne peut pas faire le mal impunément et que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ninive est coupable, Ninive sera châtiée. Et ça, c'est vraiment l'essentiel du livre de Nahum. Alors maintenant, vous comprenez aussi pourquoi on n'a pas forcément envie que le livre de Nahum circule tout seul. Si vous lisez le livre de Nahum seul, vous avez une vision déséquilibrée. Ah bon, alors Dieu, c'est voilà, le père furetard, tu as commis le mal, tu vas être puni, les Ninivites sont impies, on va tous les détruire. C'est pour ça qu'il faut replacer Nahum dans son contexte. Remarquez d'ailleurs que ce verset, non seulement, je pense, est le verset clé pour comprendre le livre de Nahum, je pense aussi que c'est un verset qui sert de charnière, de transition, avec le livre de Michée qui précède. Si vous regardez le livre de Michée, chapitre 7, verset 18, « Qui est Dieu comme toi qui pardonne la faute et passe sur la transgression en faveur du reste de ton patrimoine ? Il n'entretient pas sa colère à jamais, car il prend plaisir à la fidélité. » Donc, vous voyez, ici, on voit l'écho. C'est-à-dire que Michée dit, tu pardonnes la faute, tu passes sur la transgression. Donc, autrement dit, allez, tu passes l'éponge. Et juste après, on dit non. Le Seigneur ne tient jamais le coupable pour innocent. Donc, on pourrait dire, ah, mais il y a une contradiction, en fait. Dans les termes, oui, il y a une contradiction. Dans le message, il y a surtout une complémentarité. Et c'est pour ça qu'on vient équilibrer, on vient proposer un équilibre. Michée vient de dire ça, on embraye tout de suite avec Nahum qui dit le contraire, mais c'est pour donner une image équilibrée. Non, attendez, il ne faut pas non plus imaginer. Donc, évitons les travers, où d'un côté, on aurait la vision d'un Dieu complètement impassible et insensible aux cris de détresse et au repentir de son peuple. On veut pas non plus avoir l'idée d'un Dieu qui passe l'éponge sur tout. Donc, il faut prendre ces livres-là dans leur ensemble. Alors, leur tourne, je continue, avec le prophète Habacuc, cette fois-ci. Ce sont des petits prophètes, hein, donc je ne m'y attends pas trop. Quelques chapitres à chaque fois seulement. Habacuc, 3 chapitres, avec une réflexion intéressante, justement, sur le rapport entre Israël et les nations, dans le cadre du jugement divin. On a dit tout à l'heure, par exemple, que Dieu utilise les Assyriens pour punir le royaume du Nord. 8e siècle avant notre ère, 722, les Assyriens arrivent, déportent la population, dispersent la population. La même chose se produira au 6e siècle avant notre ère, lorsque les Babyloniens, cette fois-ci, néo-babyloniens, viendront, détruiront Jérusalem, déporteront la population à Babylone. Donc, les Assyriens, les Babyloniens sont souvent l'instrument du châtiment divin sur son peuple. Et ça pose la question, est-ce que Dieu peut ou non utiliser les autres peuples, à la fois comme instrument de châtiment, à la fois comme instrument de délivrance. Dans le prophète Isaïe, on a le cas du roi Cyrus, le roi perse, dont on dit qu'il est le Messie. Hein, c'est chapitre 45, si ma mémoire est bonne. Isaïe 45, on annonce la venue, je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises, absolument c'est ça, voici ce que le Seigneur dit à l'homme qui a reçu son onction, c'est son Mashiach, c'est-à-dire son Messie, à Cyrus, le roi de Perse, etc., etc. Est-ce que Dieu peut utiliser des étrangers, comme instrument de châtiment, de délivrance. S'ils les utilisent, est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui ont la faveur de Dieu? Est-ce que ce sont des gens bien? Est-ce que quand le roi assyrien arrive, est-ce que quand Nabuchodonosor, le roi babylonien, arrive, est-ce que ce sont des hommes de Dieu? Ou pas? Quand on voit les atrocités qu'ils commettent, on a du mal à croire que ces gens puissent être, que leur attitude puisse être cautionnée par Dieu. Eh bien, cette question, c'est l'objet du prophète Habacuc. Habacuc est en dialogue avec Dieu. Il dialogue avec Dieu parce que Habacuc ne comprend pas. Alors, il pose des questions à Dieu et il a des réponses. Et sa première question ne concerne pas les nations étrangères. Sa première question concerne son peuple. Et la première réflexion d'Habacuc, c'est de se plaindre du fait que Dieu semble inactif, passif par rapport à l'iniquité de son peuple. Il voit, voilà, verset 2, alors en plus, dès le verset 1er, hein, ce qu'Habacuc, le prophète, a vu. Habacuc voit des choses et il n'aime pas ce qu'il voit et il ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. Et au début, ce qu'il voit, c'est l'iniquité de son peuple. « Jusqu'à quand, Seigneur, verset 2, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves ?» Autrement dit, je crie à toi, je dirais, je suis témoin de cette violence parmi mon peuple, tu ne fais rien. « Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ?» Autrement dit, tu regardes, tu ne fais rien. « Ravages et violences sont devant moi, il y a des querelles, la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée, l'équité ne s'impose jamais, le méchant assaille le juste, et c'est pour cela que l'équité est pervertie. » Donc, il dit, voilà, je constate cette iniquité, cette violence, et toi, Dieu, tu ne fais rien. Alors, ça peut faire écho à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Des gens disent, voilà, mais regardez ce que je vois, c'est cette injustice sociale, pourquoi il y a tellement de gens, etc. Voilà, bon. Et pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien? Alors, Dieu répond, au verset 5, Dieu répond, il dit, ben voilà, tu te plains que je fais rien devant cette iniquité, eh bien, rassure-toi, je vais intervenir. Il dit, au verset 6, je suscite les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux. Et donc, autrement dit, je vais le susciter et il va être l'instrument de ma justice. Il va détruire, etc., etc. Verset 9, tout entier, il arrive pour la violence, le visage tendu vers l'avant, il amasse des captifs comme du sable. Donc, il dit, voilà, j'utilise les Chaldéens. Alors, les Chaldéens sont qui? Les Chaldéens, c'est une population de langue araméenne, qui est en Babylonie, en fait, qui prend le pouvoir à Babylone. Donc, à l'époque néo-babylonienne, donc, notamment avec l'étruction de Jérusalem, etc., eh bien, la dynastie en place, ce sont des Chaldéennes. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que déjà dans les textes administratifs en babylonien, donc, en fait, on voit déjà des emprunts araméens, on voit déjà du vocabulaire araméen, parfois un peu de syntaxe araméenne, etc. Donc voilà la réponse de Dieu au prophète Habacuc. Habacuc dit, voilà, je suis là, je vois, je suis en Judée, et je vois que le peuple est impie, tu ne fais rien. Dieu dit, t'inquiète pas, ça vient, ce sont les Chaldéens qui vont venir et qui vont détruire. Alors, est-ce que Habacuc va s'arrêter là? Pas du tout. Habacuc, le dialogue se poursuit, verset 12. Et Habacuc ne comprend pas. Verset 13, il dit... Verset 13b, pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? Autrement dit, Habacuc dit, attends une minute, je ne comprends pas. Je te dis que le peuple de Juda est injuste, ils sont impies et qu'il faut les condamner, les châtier. Tu me dis, t'inquiète pas, j'envoie les Chaldéens, mais les Chaldéens sont encore pires. Donc, tu envoies les Chaldéens qui sont encore plus méchants et encore plus impies. Et donc, eux vont engloutir plus juste que lui. Donc là, il ne comprend pas. Il dit, vraiment, tu peux faire ça, toi, Dieu? Et à ce moment-là, Dieu répond au chapitre 2. Et il dit, oui, absolument, je suis capable de faire ça, mais rassure-toi, les Babyloniens, les Chaldéens, seront eux aussi, à leur tour, châtiés. Donc, leur tour viendra. Et dit, ne t'inquiète pas, ça viendra. Chapitre 3, verset 3. C'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Elle ne sera pas différée. Et ça, on avait la même réflexion déjà dans le livre d'Ézéchiel, en disant « attends-la », etc., dans Ézéchiel chapitre 12. On avait ce genre de discours où les gens se plaignaient que ça n'arrivait pas. Vous voyez, verset 22, Ézéchiel 12, 22, les gens se plaignent, les jours se prolongent et aucune vision n'aboutit. À cause de cela, dis-leur, verset 23, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je fais cesser cette maxime, on ne la répétera plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent où toute vision s'accomplit. » Donc, autrement dit, rassurez-vous, ça vient. Verset 5, « Assurément, le vin est traître. » Je reviens à Habacuc, chapitre 2, donc de nouveau le traître. On a ensuite une série de malheurs dans la deuxième partie du chapitre 2. Tout d'abord, verset 6b. « Quel malheur pour celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. » Autrement dit, ce sont les fameux Chaldéens qui arrivent et qui pillent. Verset 9, on a le deuxième malheur. « Quel malheur pour celui qui se fait un profit malhonnête pour sa maison. » Verset 12. « Quel malheur pour celui qui bâtit une ville par le sang. » Verset 15. « Quel malheur pour celui qui fait boire son prochain, toi qui verses ton poison et qui l'enivre. » Verset 15. Donc c'est le quatrième malheur. Et puis enfin, verset 19. « Quel malheur pour celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, à une pierre silencieuse, éveille-toi. » C'est le cinquième malheur. « Va-t-elle enseigner ? Elle est plaquée d'or et d'argent, mais en elle, pas le moindre souffle. » Donc encore cette condamnation de l'idolâtrie en disant « Tout ça sont des objets qui ont été bâtis. » Donc on condamne l'idolâtrie. Donc vous retrouvez à nouveau les thèmes majeurs. Et puis, à la fin, donc ça c'est la réponse de Dieu, et puis on a de nouveau la troisième intervention d'Habacuc au chapitre 3. Il prend de nouveau la parole pour faire un résumé, et Habacuc est émerveillé finalement de cette stratégie divine, de ce Dieu qui est capable finalement de faire intervenir les nations pour exercer son jugement, mais pour ensuite les châtier à leur tour. Donc il a eu cette révélation, ce dialogue avec Dieu dans les deux premiers chapitres, lui ont permis d'avoir un aperçu de cette stratégie divine qui concerne l'univers tout entier et les nations tout entières. Et donc il s'émerveille de cette stratégie divine et bien sûr du fait que Dieu va évidemment sauver son peuple. Voilà, donc quelques petites notes, verset 3, Dieu vient de Théman, le saint vient du mont Paran. Donc on a cette origine du Dieu Yahvé à Théman. Donc Théman, c'est l'Arabie en fait. Hein. C'est intéressant de voir, c'est le Yahvé de Théman. On a des inscriptions où on a des questions du Yahvé de Théman, qui ont été publiées en 2012, de Kuntileta Jouloud, par exemple, qui signale justement, je te bénis, et les formules, je te bénis par le Yahvé de Théman, etc. etc. Et puis, bien sûr, verset 13, tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de l'homme qui a reçu ton onction, c'est-à-dire ton Messie. Donc, on a cette perspective messianique. Alors, cette idée de stratégie divine en plusieurs étapes qui suscite l'émerveillement du prophète, vous la retrouverez également dans le Nouveau Testament. C'est le plan de salut de Dieu pour l'humanité, qui passe par plusieurs phases. Alors, c'est les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, qui sont vraiment... Alors, les chapitres, je pourrais vous faire un commentaire des chapitres 9 à 11, vous verrez, on reprend le même vocabulaire de Dieu, de la souveraineté, de l'argile, du potier. Il y a tout un... On reprend le Jacob, Ésaü, Pharaon, etc. Enfin, on reprend beaucoup de choses. La moitié sont des citations bibliques, etc., etc. Et surtout, au chapitre 11, on explique finalement les étapes. Et les étapes pour parvenir au salut de l'humanité, c'est un... donc là, j'anticipe un peu sur Romains 11, hein, mais je vous donne quand même les étapes. Un, c'est susciter un peuple témoin, le peuple d'Israël, qui va servir de témoin aux autres nations. Donc, les gens pourront voir la façon dont Dieu bénit son peuple, quand il est fidèle, et lui donne la victoire, alors que c'est un petit peuple, mais aussi la façon dont Dieu châtie son peuple, donc la justice divine, et la façon dont Dieu restaure son peuple. Donc, l'utilisation d'un peuple témoin. Première étape. Ce peuple témoin, donc, peuple d'Israël, va attirer l'attention des autres peuples qui vont dire « Mais ce Dieu-là, il est formidable, nous voulons faire de ce Dieu notre Dieu. » Donc la deuxième étape, ce sont les nations, les païens, si vous voulez, qui, du coup, viennent à Yahvé, viennent à Dieu. Alors attendez, non, j'ai oublié une étape entre les deux. Je fais sa tête. Hein. Donc en fait, d'abord, il y a l'endurcissement du peuple d'Israël. Ça, c'est la deuxième étape. Avec troisième étape, donc le salut des païens. Et le salut des païens, quand les judéens vont voir les païens venir en masse à la foi et au salut, ils vont être jaloux. Et du coup, ils vont venir à leur tour massivement au salut. Et donc ça, c'est les quatre étapes que Paul explique hein, dans ces chapitres-là, notamment au chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Donc avec de nouveau la question, donc, ce qui occupe ces chapitres de l'Épître aux Romains, c'est l'articulation entre le rôle d'Israël et des nations dans le plan de salut pour l'humanité. Donc on retrouve la même question, c'est-à-dire dire comment est-ce qu'on articule les rôles respectifs d'Israël et des nations dans le plan de salut pour l'humanité. Eh bien, on a de nouveau cette articulation avec, là encore, quelque chose qui n'est pas forcément évident, d'imaginer qu'en fait l'endurcissement du peuple d'Israël, des judéens, fait partie de la stratégie divine pour pouvoir ouvrir le salut aux non-juifs, aux non-judéens, c'est-à-dire que si les judéens ne s'étaient pas fermés, il prêche dans les synagogues et il se fait jeter, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les nations. Il va vers les non-juifs. Et Paul dit bien qu'il n'y aurait pas eu, l'évangile n'aurait pas été accepté et reçu parmi les non-juifs massivement s'il n'y avait pas eu l'endurcissement des judéens. Et donc cet endurcissement des judéens a été voulu par Dieu. De la même manière que dans Isaïe chapitre 6, etc., etc. Donc il reprend tout ce qu'on a vu nous dans le corpus prophétique pour dire que ça faisait partie de la stratégie divine. Et c'est par ce biais-là qu'il y a eu une conversion massive des païens. Et qui, à son tour, va susciter la jalousie des Juifs. Et c'est là que les Juifs vont se convertir en masse. Alors que finalement, peut-être qu'on aurait eu une poignée. Et peut-être que le christianisme, à l'époque, on ne peut pas parler de christianisme, mais disons que la foi en Jésus comme le Messie aurait été une branche peut-être minoritaire, serait peut-être restée une branche minoritaire dans le judaïsme s'il n'y avait pas eu cet endurcissement. Donc ces quatre étapes qui peuvent choquer, en fait, font partie de la stratégie pour que, au final, tout le monde soit sauvé, les juifs et les non-juifs. Et vous avez ça au verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire par, donc, chapitre 11, verset 26 de l'Épître aux Romains. C'est-à-dire c'est par cette stratégie en quatre étapes. Voilà. Mais là, j'empiète sur le Nouveau Testament. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais quand même continuer. Sophonie. On embraye avec Sophonie. Pareil, petit prophète, court. On va retrouver au premier chapitre des oracles contre Juda et contre Jérusalem. Donc, vous voyez, verset 4, j'étendrai ma main sur Juda, etc. etc. Avec la venue du jour du Seigneur, verset 7. Donc, ça s'adresse contre Juda jusqu'au début du chapitre 2. Le chapitre 2, disons à partir du verset 4, surtout, on s'intéresse aux autres nations, donc oracle contre les nations, très court. Mais cela dit, on va parler de Gaza, vous voyez, verset 4, donc ce sont les Philistins, Gaza, Ashkelon, etc. Donc ce sont les Philistins qui sont mentionnés, verset 5. Il est question de Moab, des Ammonites, verset 8. Il est question des Couchites, verset 12. Verset 13, de la Syrie, de Ninive. Vous voyez le lien avec Jonas et également avec Nahum. Etc., etc. Donc, vous voyez, on retrouve ces oracles contre les nations. Et puis, plus précisément, contre Jérusalem, au chapitre 3. Et puis, enfin, on bascule, évidemment, à la fin, vers le salut. À partir du chapitre 3, verset 9, à ce moment-là, vous avez de nouveau, on envisage le salut, la conversion, le reste d'Israël, verset 13, etc., etc. Le héros sauveur, verset 17, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour. Enfin, c'est des très beaux versets. J'aimerais bien qu'on ait plus de temps pour en parler, mais je trouve que c'est très très beau. Et puis, donc voilà, tout petit livre. J'ai encore quelques minutes, je continue avec Agé. Voyez le verset, je reviens, le dernier verset de Sophonie, chapitre 3, verset 19. En ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent, etc., etc., etc. Je sauverai ceux qui boitent, je rassemblerai ce qui était banni, je ferai d'eux une louange et un nom sur toute la terre où ils auront honte. Et donc, il y a cette idée qu'on va retrouver dans Agé. Ah oui, donc, et donc verset 20, etc. Je vous ramènerai, je ferai de vous un nom, une louange parmi toutes les nations, etc., etc. Je rétablirai votre situation. Et donc, dans Agé, on nous dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur doit être rebâtie. Agé chapitre 1, verset 2. Et en fait, c'est précis, ça fait écho au dernier verset. Donc, vous voyez, la fin de Sophonie s'enchaîne avec le début de Agé. Alors, Agé fait partie du groupe des trois derniers prophètes, mais je crains vraiment qu'on n'ait pas le temps de s'en occuper, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête. Ce sont les prophètes de l'époque post-exilique. Donc ces trois derniers petits prophètes vont s'intéresser à la période après l'exil, où il est question de rebâtir Jérusalem, rebâtir le temple, rebâtir la ville. Je crois que c'est mieux quand même qu'on s'arrête là, parce que j'aurais pas le temps de les traiter sérieusement. Or, il y a quand même des choses très intéressantes. Alors, du coup, ça m'embête parce que Agé, Zacharie, Malachie, c'est que ça, bon, on va essayer de faire ça vite la prochaine fois et de continuer après les 12 petits prophètes. Nous embrayons sur les psaumes. On se rattrapera sur les psaumes, puisqu'on va pas faire un commentaire de tous les psaumes. On essaiera d'embrayer sur les psaumes. Donc, pas jeudi prochain, puisque c'est la journée interdisciplinaire, mais ensuite. Le jeudi suivant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'être venu. On se retrouve, donc continuez votre lecture. On se retrouve dans 2 semaines pour notre traversée de la Bible.